Pardonner et oublier. Quel rapport y a-t-il entre le pardon et l'oubli? Pardonner est-il oublié? Oublier est-il pardonné? Que veut dire « je pardonne mais je n'oublie pas » Nous avons vu que pardonner est une décision de la volonté. L'acte d'oublier, par contre, est du ressort de la mémoire qui ne répond pas immédiatement aux injonctions de la volonté. On peut décider d'oublier une offense et d'en effacer le souvenir, mais ne pas y arriver. L'offense est toujours là, dans les archives de la mémoire, malgré la volonté. Ceci veut dire d'abord qu'oublier n'est pas pardonner. On peut décider de pardonner, mais on ne peut pas décider d'oublier. Le résultat n'est pas le même. Le pardon est donc compatible avec le souvenir de l'offense. En revanche, l'expression « je pardonne mais je n'oublie pas » veut dire qu'au fond, je ne veux pas oublier. Cette mauvaise volonté revient à ne pas vouloir pardonner. Pourquoi ? Lorsqu'on pardonne, on efface la dette de l'offenseur, et cela est incompatible avec l'intention de la retenir, de ne pas l'oublier. Par conséquent, même si on ne doit pas identifier le pardon avec l'oubli de l'offense, on peut quand même dire que pardonner, c'est vouloir oublier. Normalement, si la décision de pardonner, qui comporte le désir d'oublier, de ne pas enregistrer les griefs, a été ferme et demeure le souvenir de l'offense, perd petit à petit de son intensité et très souvent finit par s'estomper avec le temps. Normalement, si la décision de pardonner, qui comporte le désir d'oublier, de ne pas enregistrer les griefs, a été ferme et demeure, le souvenir de l'offense perd petit à petit de son intensité et très souvent finit par s'estomper avec le temps. Mais même si cela n'arrivait pas, le pardon est accordé parce que sa nature est de vouloir délivrer l'offenseur de la dette contractée et non pas d'avoir à oublier. On peut constater que l'on a pardonné tout en n'ayant pas oublié si le souvenir involontaire de l'offense n'intervient pas dans notre façon de réagir vis-à-vis du pardonné. Il se peut que l'oubli ne soit pas possible, mais il faut faire comme si nous avions oublié. Le vrai pardon demande que l'on procède ainsi. En effet, l'amour vrai ne tient pas compte du mal. 1 Colossiens, chapitre 13, verset 5. Par ailleurs, pouvons-nous dire qu'oublier est pardonner ? Nous avons vu qu'il s'agit de deux actions qui ne se recoupent pas. On peut oublier une offense sans l'avoir pour autant pardonnée. De toute façon, si le tort est grand, on peut rarement oublier sans avoir préalablement pardonné. C'est pourquoi lorsque l'offense est grave et qu'on décide de pardonner, l'oubli peut être la preuve tangible qu'on a pardonné. Borges met brillamment en scène la rencontre de Caïn et Abel, bien longtemps après le crime. Ce récit illustre bien ce que nous venons de dire. Ils avançaient dans le désert et se sont reconnus de loin, parce qu'ils étaient très grands tous les deux. Les deux frères se sont assis par terre, ont allumé un feu et se sont mis à manger. En silence, la fatigue vous plombe à la tombée du soir. Pas encore nommé, une étoile scintillait. À la lueur des flammes, Caïn vit sur le front d'Abel la trace de la pierre, laissa tomber le pain qu'il portait à sa bouche et demanda pardon pour son crime. Abel lui répondit : « Est-ce toi qui m'as tué ? Ou est-ce moi qui t'ai tué ? Je ne m'en souviens plus. Nous voici tous les deux à table comme avant. Je sais maintenant que tu m'as vraiment pardonné, dit Caïn, parce que oublier, c'est pardonner. Je vais aussi tâcher moi-même d'oublier. » Le mystère du pardon. À quoi bon pardonner? Il est logique de se demander si pardonner est si difficile. À quoi bon? Quel est l'enjeu? Quel profit peut-on en tirer? Pourquoi devons-nous pardonner? La première raison qui nous vient certainement à l'esprit est que lorsque nous pardonnons, délivrés de l'esclavage de la haine et du ressentiment, nous recouvrons le bonheur bloqué par ces sentiments. Cela peut m'aider de me dire qu'en me livrant au ressentiment envers quelqu'un, je viens de mettre mon bonheur entre ses mains. Je viens de lui accorder un pouvoir réel sur moi. Cette charge négative deviendra positive lorsque je récupérerai la maîtrise de mon propre bonheur. Ceci veut dire que je dois pardonner ce qui provoque en moi un tel ressentiment. Je dois délivrer quelqu'un de sa dette envers moi, réelle ou imaginaire, et me délivrer moi-même de la grosse caution versée à mon ressentiment permanent. Les bonnes relations entre nous et les autres sont au prix du pardon. Les différends entre nous et ceux que nous fréquentons et aimons font partie de ces relations. Souvent, ces écarts peuvent devenir des offenses, d'autant plus ressenties qu'elles viennent de ceux que nous aimons, les parents, les enfants, notre conjoint, nos amis. Si on tient à pardonner et qu'on y arrive, l'amour et l'amitié sont rétablis. En revanche, si on ne pardonne pas, l'amour perd de sa chaleur, peut devenir de la haine, et l'amitié, aussi précieuse soit-elle, peut être à jamais perdue. Avec ces bonnes raisons de pardonner, il y a des raisons surnaturelles qui découlent de notre relation personnelle avec Dieu. Elles se recoupent d'une certaine manière avec les précédentes. Il y a des situations extrêmes qu'aucun argument humain ne peut justifier. Il faut alors avoir recours au niveau transcendant pour y puiser la force qui nous manque. Quelles sont alors ces raisons? Dieu a fait de nous des êtres libres et capables de l'aimer ou de l'offenser par notre péché. Si nous l'avons délibérément offensé, il ne peut nous pardonner que si nous en sommes repentis, à une condition que nous ayons pardonné à celui qui nous a offensés. C'est ce que nous demandons lorsque nous disons le Notre Père. Pardonne-nous nos fautes offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. On peut se demander pourquoi Dieu conditionne son pardon au nôtre et nous demande en plus de pardonner à nos ennemis, même quand ces derniers ne sont pas prêts à le faire. Logiquement, Dieu, qui ne veut que notre bien, ne nous tend pas du piège. Il désire nous pardonner, mais son pardon ne peut pas nous concerner si nous ne changeons pas nos dispositions. Dans le refus de pardonner à nos frères et sœurs, notre cœur se referme. Sa dureté le rend imperméable à l'amour miséricordieux du Père. Dieu respecte notre liberté. Il conditionne son intervention à notre libre accueil de son aide. Et la clé qui ouvre le cœur au pardon divin est l'acte de pardonner librement à celui qui nous a offensés, et ce, non seulement une fois, mais toutes les fois qu'il le faudra. Par ailleurs, Jésus a beaucoup insisté sur le besoin de pardonner. Lorsque Pierre lui demande s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois, Jésus dit qu'il faut aller jusqu'à 77 fois 7 fois, voulant dire par là que le pardon n'a pas de limite. Il a même demandé pardon à ses ennemis, à ceux qui rendent le mal pour le bien. Ces enseignements sont un plaidoyer pour le pardon dans la bouche du Maître. Mais Jésus, qui est le modèle à suivre pour celui qui croit en lui, n'a pas seulement parlé du pardon, mais il l'a pratiqué d'innombrables fois. Cette facilité qu'il avait à si souvent pardonner montre son immense amour. Malgré les manifestations multiples de notre charité envers le prochain, j'aime évoquer celle qui est le reflet fidèle des sentiments de notre Rédempteur, la promptitude à accorder son pardon. Alors que les scribes et les pharisiens accusent une femme surprise en délit d'adultère, Jésus lui pardonne et lui conseille de ne plus pécher. On lui présente un paralytique couché sur son gravat et on lui demande de le guérir. Jésus commence par lui pardonner ses péchés. Pierre le renie par 3 fois alors qu'il en avait été averti, mais Jésus le regarde et lui permet de réagir. Et non seulement il lui pardonne, mais il lui rend toute sa confiance en le plaçant à la tête de l'Église. C'est sur la croix que Jésus atteint le plus haut niveau de pardon. Il prie pour ceux qui sont en train de le martyriser. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Considérer que le péché est une offense à Dieu, que l'offense a une portée infinie, parce que c'est Dieu qu'on offense, et voir qu'en dépit de tout, il pardonne nos péchés dès que nous faisons tout notre possible pour nous repentir, nous permet de voir la disproportion qui existe entre le pardon de Dieu et le pardon des hommes. Aussi est-il logique d'en arriver à ce conseil. Efforce-toi, s'il le faut, de pardonner toujours et tout de suite à qui t'offense. Pour grand que soit le corps, le tort ou l'affront qu'on te fait, Dieu t'a pardonné à toi bien davantage. Avec l'adverbe « davantage », on trouve l'aspect quantitatif, à savoir les innombrables fois que nous avons offensé Dieu et qu'il nous a pardonné. Aussi, cette raison est-elle toujours valable, quelle que soit la grandeur de l'offense endurée et le nombre de fois où on nous a offensés. Le pardon a-t-il une limite? Il y a des offenses qui peuvent nous sembler impardonnables de par leur barbarie, parce qu'elles sont faites aux innocents ou parce qu'elles entraînent des conséquences gravissimes. Humainement parlant, on peut ne pas trouver de justification suffisante pour les pardonner. En effet, nous avons bien souligné qu'avec des raisonnements exclusivement anthropologiques, le pardon est très souvent inadmissible, ne peut être saisi en toute sa grandeur et se justifier en tous les cas. Seule une perspective théologique peut nous permettre de comprendre que même ce qui semble impardonnable peut être pardonné, car il n'y a ni limite ni mesure à ce pardon essentiellement divin. Le pardon, de par sa nature, est du ressort de Dieu, et cela implique aussi que l'homme qui veut pardonner complètement doit s'attacher à Dieu. C'est ce qui explique, par exemple, la démarche de Jean-Paul II qui a bouleversé l'humanité quand, peu de jours après l'attentat du 13 mai 1981, dès qu'il a quitté l'hôpital, il est allé voir son agresseur. Il a rencontré Ali Aqsa, il l'a serré contre son cœur et il a avoué par la suite « Je lui ai parlé comme on parle à un frère qui jouit de ma confiance et que j'ai pardonné. » L'universalité du pardon inclut aussi les offenses qu'on a le plus de mal à pardonner, celles que subissent ceux que nous aimons le plus. Dans ces cas-là, notre émotivité est telle que nous n'arrivons pas à pardonner pour ne pas trahir l'amour que nous éprouvons envers la victime. Il faut ici encore ne pas se laisser aller au sentiment et essayer de faire la part de notre amour envers la victime et le pardon de l'agresseur qui appartient à un autre registre. Dans la mesure du possible, nous essaierons de régler le problème en cherchant le bien des deux. Nous aiderons et continuerons d'entourer celui qu'on aime et nous corrigerons l'offenseur pour qu'il puisse plus facilement changer. Il n'y a ni limite ni mesure au pardon et cela demande de le réitérer à chaque fois qu'il y a une offense. C'est ce que veulent dire les propos de Jésus jusqu'à 77 fois cette fois. D'un autre point de vue, toujours pardonner signifie que chaque fois que l'on pardonne, c'est comme si on le faisait pour la première fois. En effet, le passé n'existe plus. Les offenses précédentes sont toutes été annulées et elles ont disparu de notre cœur. Aussi faut-il mettre les moyens qui aident l'agresseur à changer d'attitude pour son bien, puisqu'il est le premier lésé par sa façon d'agir. Comment pardonner? Celui qui se laisse aller à son imagination et invente des griefs ou exagère ceux dont il a été l'objet, tout comme celui qui ne fait pas la part entre l'excusable et l'inexcusable, peut être amené à vouloir pardonner ce qui n'a pas de raison de l'être, et cette tâche lui devient pénible. Mais le contraire est aussi faux. Celui qui ne veut pas reconnaître la bonté du pardon de l'offense réelle subie et prétend l'ignorer ou l'oublier pour ne pas avoir à pardonner. Dans ce cas-là, l'effet de l'offense est intériorisé, n'est pas évacué, puisqu'on n'a pas pardonné. C'est pourquoi il faut soumettre les offenses à une analyse minutieuse pour en éliminer et l'exagération et l'imaginaire, pour isoler ce qui est excusable, mais pour reconnaître en même temps l'offense avec objectivité. Autrement dit, pour pardonner, il faut être réaliste. Le pardon est muni du réalisme le plus cru. Pour pouvoir pardonner, il faut avoir le courage de regarder l'horreur en face, l'injustice et la méchanceté dont nous avons été l'objet. Nous ne pouvons rien détourner, ni excuser, ni ignorer. Nous regardons le mal en face et nous l'appelons par son nom. Seuls les réalistes sont à même de pardonner. Autrement dit, le véritable pardon demande de regarder le péché sans détour, l'aspect inexcusable lorsqu'on a écarté toutes les circonstances atténuantes, pour le voir dans toute son horreur, sa bassesse et sa méchanceté, et se réconcilier malgré tout avec celui qui l'a commis. Pardonner ne tient qu'à cela, et nous pouvons recevoir cette force de Dieu si nous la lui demandons. Dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné ne peut pas pardonner à son frère, pour la bonne raison qu'il n'a pas besoin d'être lui-même pardonné. Il s'est toujours bien tenu, il est resté chez son père et n'a rien à se reprocher. Dès que nous comprendrons que nous sommes tous des pécheurs ayant besoin d'être pardonnés, il nous sera facile de pardonner aux autres. Nous devons être pardonnés pour pouvoir pardonner à notre tour. Si je ne comprends pas cela, je pourrais difficilement dire « je te pardonne » à qui que ce soit. Saint Jean Chrysostome disait que celui qui pense à ses propres péchés pardonne plus vite à son frère. Reconnaître nos propres torts nous rend humbles, or l'humilité est à la base de toute bonne action, surtout si elle doit être guidée par l'amour, comme c'est le cas du pardon. L'orgueilleux n'aime que lui et estime qu'il n'a pas besoin du pardon. De ce fait, il ne peut pas pardonner. Pour pardonner, il faut être fort, aussi bien pour décider de délivrer autrui de la dette morale contractée par son offense que pour tenir cette résolution jusqu'au bout. La décision de pardonner ne cautérise pas automatiquement la blessure. Elle n'en efface pas la trace dans la mémoire. Si on n'actualise pas cette décision chaque fois que la blessure nous fera mal ou que l'offense battra le rappel, on aura le risque de retomber dans le ressentiment et de retirer notre pardon. Mais malgré les dispositions précédentes, il peut arriver que pardonner soit plus fort que nous. Il faut alors penser que la nature du pardon est d'origine divine et s'en remettre à Dieu pour pouvoir y arriver. Accueillir le pardon de Dieu nous engage à pardonner à nos frères. Saint José María Escrivá disait souvent « Il faut pardonner, vraiment sans ressentiment. Le pardon est une chose divine. Nous les hommes, nous ne saurions pas le faire si le Christ ne nous l'avait pas appris. » Les effets du pardon. Pardonner est la source de grands bienfaits, aussi bien au niveau personnel qu'à celui des relations avec les autres et avec Dieu. Pour soi, les effets du pardon touchent aussi bien le corps que l'esprit. Dans les relations avec les autres, le bienfait est mutuel. Dans le domaine surnaturel, le cœur qui pardonne devient capable de recevoir le pardon de Dieu. Il y a des moyens différents pour surmonter le ressentiment. Nous les avons évoqués. Cependant, le plus profond est le pardon. Si on a intérieurement gardé la blessure de telle ou telle offense, si elle a engendré la haine ou la rancune, la seule solution est de pardonner pour effacer la dette que l'autre a contractée vis-à-vis de moi et pour évacuer, ne serait-ce que petit à petit, le poison que ces sentiments négatifs introduisent dans mon esprit. Au fur et à mesure que le ressentiment disparaît, la paix et le bonheur s'installent. Aussi Jean-Paul II, le regard tourné vers le troisième millénaire, a-t-il demandé « Que la joie du pardon soit plus grande et plus profonde que tout ressentiment possible. » Évacuer le ressentiment, c'est se délivrer aussi des attaches à l'origine d'un esclavage et d'une dépendance qui assombrissent notre existence. Ainsi, le pardon est, en définitive, la voie de la liberté intérieure qui nous permet de regarder la vie de façon positive et de l'orienter vers les idéaux élevés qu'on n'atteint qu'à ce prix. Pardonner est la preuve la plus forte de l'amour et par conséquent ce qui transforme le cœur humain. Aussi, chaque fois que nous pardonnons, notre conversion intérieure s'opère-t-elle, une authentique métamorphose, au point que saint Jean Chrysostome n'hésite pas à dire que rien ne nous fait plus ressembler à Dieu que d'être prêt à pardonner. Tant qu'on est ravagé par le ressentiment, on regarde autrui d'un mauvais œil, avec le préjugé de la haine et de la rancœur. Dès qu'on pardonne, on est envahi par un sentiment nouveau, et le regard est plus clair, les préjugés disparaissent. On peut voir les autres tels qu'ils sont, découvrir et apprécier leurs qualités cachées. Si les ressentiments sont les plus grands ennemis des relations avec les autres, le pardon permet de les évacuer et de recouvrer le trésor de l'amitié ou de l'amour que l'on croyait perdu. Qu'il est pénible de perdre un ami parce qu'on n'est pas capable de pardonner l'offense qu'il nous a faite, et qu'il est fréquent de voir l'amour de deux personnes s'éteindre sur un cahier de doléances qu'elles ne dépassent ni ne pardonnent. Le pardon préserve l'amour, le renouvelle et fait que l'amitié demeure. Lorsque nous pardonnons à ceux qui nous offensent, nous sommes en mesure d'être pardonnés par Dieu. Le pardon divin est ainsi la manifestation la plus éclatante de son amour pour nous. De ce fait, en pardonnant aux autres, nous sommes ouverts à l'amour de Dieu, qui est à son tour la source de notre amour pour lui. Dans la mesure où nous savons que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes portés à l'aimer et nous voulons répondre à son amour. Nous répondons concrètement à l'appel à la sainteté qu'il adresse à tous les hommes. Conclusion. Nous rappelons ici les principales solutions proposées concernant le ressentiment et le pardon. Si l'on souhaite aller plus loin et approfondir, il faut revenir au chapitre qui les développe et les justifie. Le but de cette synthèse est de permettre au lecteur de voir l'ensemble des points qui ont une application pratique et peuvent être le programme personnel de vie visant l'évacuation du ressentiment et l'exercice du pardon pour atteindre un plus haut degré de bonheur. Pour résoudre le problème du ressentiment, il faut d'abord comprendre sa nature. Une réaction émotionnelle négative face à un stimulant perçu comme une offense et qui demeure à l'intérieur du sujet avec des effets autodestructeurs. Si notre analyse des offenses subies est objective, parce qu'elle a su mettre de côté ce qui est exagéré ou imaginaire, la maîtrise du ressentiment est plus facile. Il faut à tout prix relativiser les torts et maîtriser l'imagination pour un jugement objectif. Lorsque l'analyse des agresseurs supposés est objective et qu'elle est revêtue de compréhension, grâce aux circonstances atténuantes, beaucoup de ressentiments sont éliminés. Une volonté forte permet la maîtrise de nos propres sentiments et évite que les blessures demeurent et deviennent des ressentiments. La fermeté et la constance de nos décisions montrent notre force de volonté pour enrayer nos mouvements émotionnels. L'oubli de soi par le service et le don aux autres est le plus grand antidote contre le poison du ressentiment. Celui qui dépasse son insécurité personnelle grâce à l'estime de soi, à l'humilité et à la relation personnelle avec Dieu, réduit considérablement le risque d'être victime des ressentiments. La gratitude qui nous permet de découvrir et de reconnaître que les dons reçus sont un cadeau est l'antithèse du ressentiment. Une personne reconnaissante n'éprouve jamais de ressentiment. Lorsque les offenses sont réelles et volontaires, la seule solution de fond pour qu'elles ne provoquent pas le ressentiment est de les pardonner. La clé du pardon est dans l'amour. En effet, pardonner est un acte de miséricorde. Seul celui qui aime vraiment est en mesure de pardonner. Le pardon est un acte de la volonté. De ce fait, on peut prendre la décision de pardonner même si le sentiment est adverse. Certes, il faut essayer d'éliminer les sentiments négatifs qui persistent après avoir pardonné. Par exemple, il faut transformer la blessure en compassion et l'offense en intercession. La règle pour réussir dans nos rapports avec l'offenseur après lui avoir pardonné est de rechercher son bien avant tout. Dès qu'on a pardonné, il faut essayer d'oublier les griefs, de procéder comme si nous avions déjà oublié et de mettre les moyens pour rétablir les rapports qui existaient avant l'offense. La connaissance de Jésus-Christ nous permet d'approfondir ses enseignements sur le pardon et d'imiter son exemple du pardon sans limite. Celui qui sait qu'il a besoin du pardon parce qu'il avoue les offenses qu'il a commises est en mesure de pardonner. La raison la plus forte pour toujours pardonner à mon prochain est que Dieu m'a toujours pardonné. En effet, l'offense que j'inflige à Dieu par mon péché est infiniment plus grave que toutes celles que je peux subir. Il y a des offenses qui sont plus fortes que la capacité humaine à pardonner. Avec le secours de Dieu, il est possible de pardonner même l'humainement impardonnable.